Voix nue. Toute cette semaine, Nejma Bouakra rencontre Maggie Marin. Ce soir, le grand saut chorégraphe.
Maggie Marin, danseuse et chorégraphe. Il y a eu La jeune fille et la mort en 1979, une pièce chrysalide pour une apprentie chorégraphe. Un concours à Nyon, puis celui de Bagnolet, gagné. Maggie Marin, vous devenez chorégraphe, vous sortez de la tutelle de Maurice Béjart, qui vous a émancipé de la danse corsetée avec l'école Moudra. Vous fondez le ballet-théâtre de l'Arche avec Daniel Ambache. Maybe, inspiré de fin de partie de Samuel Beckett, d'abord mal reçu, fera ensuite le tour du monde. Maybe et son cœur anachronique, vacillant, pris dans des pulsions grégaires qui parfois opinent du chef, se mord, se ravise, se disloque, une meute, des visages de plâtre écaillés, inquiétés, inquiétant de cette foule, ce cœur rassemblé ou divisé, affecté par la musique carnavalesque. Et puis cette commande juste 3 ans plus tard de l'opéra Cendrillon de Prokofiev, la consécration, un immense succès en 1985. Une œuvre pavée dans la mare. La nouvelle danse, dit-on, prend son envol. Époque étonnante. L'expérimentation se pratique non à la marge, mais au cœur d'une dynamique impulsée tant par les jeunes chorégraphes que par le ministère de la Culture et les toutes nouvelles infrastructures dans les régions. Les centres chorégraphiques nationaux. Vous vivez l'âge d'or de la danse. Bonsoir, Maggie Marin.
Bonsoir.
A-t-il existé cet âge d'or de la danse contemporaine, ces années 80?
Ben oui, bien sûr, oui, oui. Ça a commencé avant que le ministère de la Culture nous appuie, en fait, nous soutienne. Sinon, il n'y aurait rien eu qui se serait passé. Je veux dire, il y avait un tel manque de travail de recherche sur la modernité, sur l'art contemporain en France. Il y avait peu de compagnies contemporaines, en fait, de chorégraphes vivants et actifs. Que je pense que Caroline Carson a été très importante quand elle a été nommée à l'Opéra de Paris. Elle a généré, en fait, chez beaucoup de jeunes danseurs, chorégraphes, elle a généré vraiment une impulsion, quoi. Enfin, quelque chose. Et effectivement, après, avec la langue, les années qui ont suivi, ça a été vraiment un moment très. Les gens venaient nous voir, quoi. Caroline arrive via Alvin Nicolaïs et est nommée au GRTOP, c'est-à-dire groupe de recherche théâtrale à l'Opéra de Paris.
Oui, l'Opéra expérimente aussi.
Voilà, donc tout à coup, on a cette femme qui arrive et qui est une magnifique danseuse et qui crée des choses très, très contemporaines dans une institution, quoi. Après, aussi bien Caroline que Pina que Trisha, ils sont un tout petit peu avant, et puis c'était loin. Donc Pina, on en a entendu parler qu'en 80, hein, en France. Trisha, c'est pareil, c'était quand même assez tard.
Fin des années 60, début des années 70, aux années 80, les femmes chorégraphes font une sorte d'entrée fracassante un petit peu dans le répertoire. Elles le bousculent, Caroline Carlson, Trisha Brown aux États-Unis, Pina Bausch. Que se passe-t-il? Pourquoi ces femmes comme ça interviennent là?
Parce qu'il y a eu aussi le féminisme, en fait. Il y a aussi la femme qui, tout à coup, sort de son silence et de cette pression. Enfin, les danseuses, quoi, se prennent en main et disent « Mais oui, je peux, je suis capable, nous sommes capables de créer, d'inventer. »
Mais c'est un grand bouleversement. Les danseuses s'autorisent presque d'elles-mêmes à devenir chorégraphes. Vous-même, personne ne vous y a invité. Maurice Béjart et ses archanges musclés vous ont aimé soliste, mais pas tout à fait chorégraphe.
Il y a quand même, on vit un temps, quoi, on vit une époque, quoi, et il y a eu 68. Il y a eu la pilule, il y a eu l'IVG, enfin, tous ces trucs-là. Ce moment 70, quoi, a été un moment très, très important, la libération du corps, de la sexualité, de beaucoup de choses. Et moi, je suis là-dedans, je trempe là-dedans, comme tous les gens de ma génération, en fait. Du coup, l'école de Moudra, c'est... Bon, Béjart a eu la magnifique idée de créer cette école, effectivement. Mais c'est surtout le choix des professeurs, en fait, comment il a choisi de ces gens, ces pédagogues, qui nous ont totalement émancipés, oui, enfin, qui nous ont dit, mais vous pouvez, vous êtes capables, il n'y a pas de problème, femme, homme. Enfin, voilà, c'était un moment très important, ces 3 années, c'était 70, 74, quoi, quelque chose comme ça.
Il vous pousse dans vos retranchements, qu'est-ce qu'il vient solliciter chez vous ?
La responsabilité, j'allais dire, voilà. Tout simplement, quoi. Enfin, quelque chose comme ça. Tu n'es pas un outil pour quelqu'un, tu es ton propre maître. Tu peux prendre des décisions, tu peux les mener à bien, tu peux être responsable de tes actes, en fait. Et alors que jusque-là, on avait été éduqués pour servir, en fait, le projet des autres. Et tout à coup, on peut effectivement être au service du projet de quelqu'un d'autre, mais aussi on peut porter des projets soi-même. Donc on peut avoir ces responsabilités-là. Ça, je crois que ça a été une déformation. Enfin, j'étais formée, puisque j'avais déjà pas mal d'années de danse classique derrière moi, mais l'école m'a vraiment déformée. Enfin, j'ai pu me réformer, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas reprendre mon propre corps. Et la technique était tout à coup quelque chose qui ne me collait pas, mais que je pouvais prendre quand j'en avais besoin ou nécessité, en fait. Donc la technique était sortie de ma personne, en fait. Je n'étais plus une danseuse, j'étais une personne dansante. Et la danse était la technique, la danse était mon outil d'expression.
Ça ne vous a pas inquiété un peu ?
En fait, ça fait très mal même, je dirais. La première année de l'école, on s'aperçoit à quel point on a été squeezé, en fait, à quel point on nous a rendu incapables de faire aucun geste de notre propre chef, quoi. Donc ça, c'est très douloureux de voir à quel point ça a été incorporé, cette norme, en fait. Donc cette première année, c'est une année de déchirement, en fait. À quoi ça a servi tout ce travail, si c'est pour finalement que j'arrive pas à faire le moindre pas de moi-même. Donc c'est douloureux, en fait. Mais bon, ça vaut la peine. C'est une naissance, en fait, on peut dire.
Et vous devenez soliste.
Ben là, je fais l'école et puis ensuite je rentre dans la compagnie et on devient soliste en fait chez Maurice. Ce qui était bien, c'était que oui, il y avait quelques-uns qui étaient des grands solistes, mais on pouvait être soliste ou corps de ballet aussi bien. Ça, on pouvait naviguer d'un endroit à l'autre. Moi, j'ai eu la chance de faire des choses très intéressantes avec lui, oui.
Une souplesse.
Oui, mais je faisais aussi des choses de groupe, hein, et ça ne me déplaît pas, moi.
Non, on a pu s'en apercevoir. Et à quel moment vous vous décidez à devenir chorégraphe, à tenter quelque chose, voilà, en votre nom propre? Enfin, à quel moment?
Ce sont des concours de circonstances. En fait, je crois que je ne l'ai jamais décidé comme ça un jour, en me disant, tiens, maintenant, je vais pouvoir enfin inventer être chorégraphe, non? D'abord, c'était comme hors de portée quand même. J'avais beaucoup d'admiration pour quelques metteurs en scène, quelques artistes que je mettais très haut, quoi. Et j'arrivais, par exemple, oui. Il y avait des groupes il y avait Bob Wilson, voilà. Il y avait Peter Brook, il y avait Ariane Mnouchkine, il y avait La Mama de New York. Il y avait des groupes comme ça, il y avait le Chêne Noir, donc des gens qui étaient à la fois impliqués politiquement, artistiquement, poétiquement, que je découvrais aussi. Il y a une très belle cinémathèque à Bruxelles, je découvrais aussi le cinéma. Donc j'avais pas tellement été, mais là j'ai vraiment bouffé du cinéma pendant 3 ans. Mon regard commence à s'affiner un peu sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment... Je ne me projette pas comme auteur ou comme un chorégraphe. Je me projette plutôt comme interprète. Après, dans l'école, on nous avait donné cette confiance-là, c'est vrai, d'essayer, de faire des essais. Donc ça, on en avait fait plein pendant 3 ans. En fait, et ça a commencé comme ça. Quand je suis partie de chez Béjart, je me suis dit, moi et puis 2-3 copains, Daniel Ambache, des copains qui étaient à l'école, qu'est-ce qu'on fait? Je voulais travailler avec Nicolaïs, je voulais travailler avec Peter Brook, je voulais travailler avec Caroline Carlson. Je me projetais plutôt dans ça, mais en attendant d'avoir les réponses, pour pas rester inactif, en fait, on s'est mis à faire des petites pièces dans un petit studio et on les a proposées à des concours de chorégraphie pour avoir comme des objectifs, en se disant, comme ça. Et donc, on a fait ça. Et en faisant ça, on a gagné un prix, puis un autre, puis de fil en aiguille, on s'est dit, on va continuer. Mais en fait, c'était un espace où moi, je pouvais faire des pièces, mais c'était aussi Daniel qui faisait des pièces et les autres qui faisaient des pièces. Donc, Elinor, on était plusieurs investis dans ce... C'était pas un collectif, mais c'était un groupe, quoi. Chacun avait un endroit où il pouvait faire des essais. Ça, c'était les années 80.
Et vous accolez encore à l'époque le mot ballet et théâtre. Hein, c'est le ballet théâtre de l'Arche.
Oui. Comme la danse-théâtre allemande, quoi, en fait. Ballet, c'est vrai que c'est pas un bon mot, hein. Mais bon, à l'époque, c'était ballet-théâtre, quoi. On ne disait pas danse-théâtre, à l'époque, hein. Oui, c'était une erreur, en fait.
Ça vous permet, c'était reconnaissable dans le paysage, ballet-théâtre.
Oui, en fait, c'était qu'il y avait deux mouvements, quand même, qui se sont petit à petit dessinés, qui était celui qui était venu plutôt des États-Unis, avec une abstraction américaine, tous ceux qui avaient été à New York, travailler avec Cunningham, essayer de travailler, enfin de prendre les choses de là-bas et revenir faire leur sauce ici avec ça. Et puis ceux qui étaient plutôt de l'école allemande, et moi je me situais plutôt dans cet endroit-là, dans une sorte de théâtralité, quoi. Du mouvement, enfin je sais pas comment dire, d'un théâtre du corps, plutôt que d'une abstraction.
Et peu de temps après Maybe, donc c'est vraiment une période tout en effervescence, donc l'Opéra de Lyon vous commande Cendrillon. Cendrillon à partir de... Donc Cendrillon de Prokofiev. Hein. Donc Prokofiev compose Cendrillon entre 1940 et 1944, en pleine guerre. Il travaille en même temps à cet opéra que Guerre et Paix. C'est une époque de disette, de terreur, d'angoisse dans l'Union soviétique de Staline. L'unique consolation de la pauvre Cendrillon est une photo de sa mère. Certains y voient une allusion au portrait de Lénine dans les chaumières. Vous, qu'avez-vous fait de ce besoin de consolation de Cendrillon ?
Je suis retournée à l'enfance, moi, en fait. Je suis retournée à l'envers, en fait, de l'idée que l'enfance, ça serait un monde de douceur et rose et bleu, et qu'il y a énormément de cruauté, en fait, dans les relations des enfants entre eux, mais du coup aussi des adultes. Donc c'est ça qui m'a... Bon, après, c'était une commande, hein, Cendrillon. Donc c'est plutôt dans le fait que j'étais donc je faisais des pièces pour un groupe de gens qui m'avaient choisi et que j'avais choisi, enfin on s'était choisi mutuellement, et tout à coup on me propose de travailler avec une compagnie qui ne m'a pas choisi, avec des danseurs qui ne m'ont pas choisi, qui ont la même école que moi, des danseurs issus de la danse classique. Et je me demande, mais comment je m'en sors dans un milieu hostile, en fait, quelque chose comme ça. Et c'est ça qui me détermine à accepter de faire Cendrillon, en fait. Comment je vais me débrouiller pour m'en sortir, quoi.
Vous n'allez pas de main morte. Hein. La fée est un robot. Certains personnages ont des sortes de bourrelets comme ça tout autour du corps, dansent les bras écartés. Pas évident pour... des danseurs si sophistiqués que les danseurs classiques.
Oui, c'était assez difficile pour eux de le prendre comme ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec deux, trois d'entre eux, notamment Françoise Joulier, qui a fait le rôle de Cendrillon. C'était vraiment magnifique comme travail. Mais après, la majorité d'entre eux ont subi ça comme une sorte de reniement, en fait, de tout ce qu'ils avaient fait depuis de leur corps, de leur travail, de leur technique. Ils ont pris ça très très mal. Après, c'est aussi que justement, moi dans l'école, justement de Maurice, de Béjart, on a travaillé beaucoup le masque aussi. Et quand on vient de la danse et qu'on a travaillé le masque, on voit bien qu'on n'incarne pas, en fait, on est traversé en fait par quelque chose qui n'est pas, c'est pas soi-même qui est entré en jeu. On est un médium en fait, on joue. Le rôle du méchant, de la grosse, de ceci, enfin, on n'est pas soi-même. Et ça, c'était encore, je pense que les danseurs là-dessus ont beaucoup progressé quand même ces 20 dernières années. Mais à l'époque, c'était tout de suite une atteinte, en fait, pour un danseur d'être masqué, c'était très très dur. Et a fortiori leur corps, quand on leur masque le corps, c'est-à-dire des gens qui font des efforts pour rester minces, pour avoir des jambes, des muscles, des possibilités incroyables, qui sacrifient beaucoup de choses pour ça. Tout à coup, on leur dit non, mais c'est pas là que ça se situe, c'est ailleurs, quoi. C'est-à-dire que vous allez servir quelqu'un d'autre que vous-même, quoi, enfin, d'une certaine façon. Et ça, c'était très, très dur à admettre pour eux.
Surtout que Cendrillon s'identifie parfois aux objets, aux robots.
Mais je pense que c'était beaucoup les transformations du corps, en fait, qui n'étaient pas acceptées, en fait.
Mais Guy Marin, vous allez un peu plus loin que ça. Vous allez aussi du côté de la maladresse. Vous leur faites danser la maladresse aussi, non ?
Oui, mais c'est... c'est de la danse aussi, quoi. Enfin,
c'est pas de la provocation.
Ah non, pas du tout. Non. En fait, j'étais pas du tout dans cette idée-là. C'est la façon dont j'ai pu m'en sortir, en fait. C'est ça. Parce que qu'est-ce que j'aurais fait au niveau du jeu, par exemple, une Cendrillon. Comment? Alors, je fais comme dans le ballet classique. Je fais des petits tourniquets de mains pour dire que je vais danser. Je mets mes mains sur mon cœur pour dire je t'aime. Donc, je passe dans du mime, quoi. Et en fait, l'idée de faire un travail masqué, aussi bien dans le corps que donc dans l'empêchement aussi de leurs possibilités, pas pour les empêcher, mais pour servir un propos, quoi. Ça me semblait la seule façon de pas tomber dans une espèce de chose édulcorée. Donc c'était vraiment une façon d'éviter le pire pour moi, de travailler avec le masque. Sauf qu'il faut aimer le masque, parce que si on n'aime pas le masque et qu'on travaille avec du masque, c'est une vraie violence. Et ça, j'ai pas su l'expliquer non plus à ce moment-là. J'étais peut-être trop jeune. Enfin, je pense que je l'expliquerai pas de la même façon. Aujourd'hui, je prendrai plus de temps pour les faire rentrer dans cette expérience que je trouve très riche, moi. Mais à l'époque, j'y allais pas avec le dos de la cuillère, c'est vrai. Fallait qu'ils comprennent d'eux-mêmes, quoi.
Et tout à coup, la grâce, Éden, le mythe d'Adam et Ève, un long porté, Cathy Polo, une de vos très fidèles danseuses, se mêle à la chair même de son partenaire, Wilfried Romoli, dans une série d'enrobements, voilà. Ils deviennent presque indissociables avant de finalement s'éloigner. Que se passe-t-il là, enfin, pourquoi cette grâce?
Ben ça, c'est le fruit de ce travail-là, c'est vraiment le fruit de la durée. Je pense. C'est le fruit du temps, en fait. C'est un travail qui a commencé par la volonté, en fait, d'améliorer, en fait, le rapport de contact dans la danse entre deux corps, de pouvoir travailler sur le temps et sur la durée à partir de rapports de poids, de relais, de contact, sans avoir de projet a priori, quoi. Et ça, c'est ce que j'ai appris, en fait, avec cette pièce, c'est que ben, le temps, ça permet de chercher et ça permet de se tromper, de trouver des chemins, quoi.
Nous sommes en 1986.
C'est ça.
Et cette sensualité-là, vous la trouvez comme ça, simplement dans un travail de recherche?
Oui.
Je veux dire, rien autour de vous, aucun événement ne vous amène tout d'un coup à ce désir-là, cette tendresse-là aussi?
Je crois pas, non. Enfin, là, vous me faites douter tout d'un coup.
Qu'est-ce qui se passe en 1986?
Qu'est-ce qu'il y a en 86? Je sais pas, non.
En 87, peut-être, une année plus tard, non? La rencontre avec Denis Mariotte, elle est importante, cette rencontre.
Je vois où vous voulez en venir, en fait. C'est que... Oui... C'est vrai qu'il y a quelque chose du couple, d'ailleurs, parce que dans ce ballet Éden, dans cette pièce, en fait, il s'agit de 6 duos. Donc je travaille en duo, en fait, deux corps ensemble, et probablement que la question du couple me tarabuste, voire quelque part, quoi, comme ça, mais de façon plus générale que directement associée à mon vécu, je pense.
Oui. Et donc, en 1987, apparaît Denis Mariotte. C'est un rocker. À quoi il ressemble, cet homme-là, Denis Mariotte, en 1987?
Il ressemble à un jeune homme, en fait, un peu... Enfin, qui fait de la musique, mais en dehors de... Parce que je le rencontre à l'Opéra de Lyon, donc il est technicien, en fait, à l'Opéra de Lyon. Un gars qui fait de la musique en dehors de ses heures de technique là, qui est assez drôle. Après, c'était un musicien, mais qui n'était pas un musicien de conservatoire non plus. Donc, musique rock quand même, batteur. Et puis, ils étaient assez rentre-dedans là. Ils avaient un groupe qui s'appelait le Pacte Noir. Ils travaillaient dans des caves, quoi.
Il est libre, cet homme-là, c'est ça? Il est très libre.
Il ne se prend pas pour un grand artiste ou pour un musicien. Il fait de la musique, il fait du dessin, il fait son marché, il répare sa bagnole, il peint sa maison, il fait des travaux, enfin voilà. Donc quelqu'un d'à peu près normal, quoi, mais qui a un endroit de poésie en lui sur lequel on peut se retrouver, enfin quelque chose comme ça.
Et là débute une collaboration qui a bien duré 25 ans.
25. 25 ans. Enfin, quand on partage très très fort des choses et si longtemps, les séparations sont très très dures.
Vous travaillez tout le temps, à la maison aussi ?
Moi ?
Vous et Denis Mariotte ?
Enfin, si on peut appeler ça du travail, franchement, partager des lectures, partager des films, partager des pensées, des réflexions à partir de ce qu'on lit ou de ce qu'on traverse, quoi. Films, oui. Peinture, expo. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très dense entre nous. D-E-N. Oui, c'est un partage, c'est une relation, quoi. Enfin, j'allais dire, voilà.
Denis Mariotte dit que vous travaillez au travers l'un et l'autre de la discipline de l'autre. Vous travaillez comme ça au travers. Voilà.
Oui, on peut dire ça, oui, je pense. En fait, il y a toujours un moment avant, avant même que la pièce commence à prendre, en fait, il y a toujours ces échanges entre nous qui construisent en fait un petit ruisseau, quelque chose de commun. Donc ça commence quand même par un échange entre lui et moi pour faire quelque chose en commun. Ça commence ensemble, puis ensuite, il y a un moment où on commence le travail avec les amis interprètes, en fait, avec les gens avec lesquels on travaille, auxquels il assiste aussi. Donc voilà, il y a tout un temps où on est dans le même jus, ensemble, nous deux d'abord, et après avec les interprètes. Et puis il y a un moment donné, effectivement, où Denis se retire un peu, quelques heures dans la journée, mais il est quand même à côté, quoi. Et où il travaille de son côté musicalement, disons, sur le sonore. Et puis, et nous, de notre côté, beaucoup au métronome, pour le laisser libre de faire ce qu'il veut, pour pas moi m'assujettir à sa musique et pour pas assujettir sa musique à ma mise en scène ou à ma danse. Donc je travaille sur des textes aussi, donc il faut voilà, un texte, ben c'est déjà du sonore, donc comment est-ce que ça peut se tresser avec ce qu'il a fait. Mais lui, il voit tout ça, donc il travaille un peu comme avec l'empreinte de ce qu'on a pu faire au studio. Sur le plateau, dans l'après-midi, par exemple, ou la veille. Et après, il revient avec des choses. Et parfois, ça tombe pile, et parfois, ça tombe pas. Et donc, il retourne.
Quand c'est à contre-courant, comment fait-on ?
On se dispute un peu, oui. Enfin, on se dispute. Des fois, c'est rare que ça n'ait pas collé, hein, quand même. En général, il est assez fin pour capter, en fait... Et bon, je trouve que c'est un très bel artiste, en fait, vraiment. Donc, il a toujours capté, en fait. Sauf à des moments, mais moi aussi, je me trompe. Je veux dire, quand moi, je me trompe, je me suis trompée, des fois. Enfin, et puis, pas que des fois, enfin. Mais parfois, son regard, c'est dur, mais il porte un regard d'exigence aussi, et je trouve que c'est bien. Donc, il arrivait. Moi, j'avais travaillé depuis un mois sur des trucs, et puis il me dit... Oh non, là, ça va pas du tout. Bon, ben, je passe un mauvais week-end et je recommence le lundi, quoi. Et c'est pas simple, quoi, de travailler aussi intimement, aussi proche avec une personne avec laquelle on vit, avec laquelle on partage beaucoup de choses. Mais c'est aussi le cas avec mon équipe, à moindre permanence, puisque le soir, on se quitte quand même. Donc parfois on pouvait continuer à discuter jusqu'à 2-3 heures du matin parce qu'on continue à vivre ensemble, quoi.
Mais est-ce que ça rend plus fort parfois contre l'adversité d'être à deux, d'avoir noué ce long dialogue comme ça ?
Ça rend plus fort aussi individuellement, je dirais, plutôt que par rapport aux autres. Je pense que moi ça m'a aidé parfois des contradictions que Denis a pu me faire à me questionner, à savoir si j'y tenais vraiment et pourquoi j'y tenais à certaines choses. Et je pense que c'est la même chose pour lui. En fait, il me semble que notre confrontation, en fait, nous aidait à nous déterminer un petit peu plus ou à laisser tomber quand on sentait que c'était pas si important que ça. Donc, ça pousse, en fait, d'avoir des dialogues qui sont parfois accordés et parfois en désaccord. C'est ça qui pousse à questionner et aller chercher plus loin quand on sent que oui, peut-être, c'était un peu facile, ce truc-là. Bon, ben.
Et la naissance de vos enfants, Est-ce que cela a une certaine importance dans votre travail, ou est-ce qu'on y pense à rebours que ça a de l'importance? Est-ce que ça change, ça déplace aussi votre travail de chorégraphe?
Chaque chose influence. On peut dire que la mort de mon père a été un moment très important, par exemple, alors que je ne m'en suis pas aperçue au moment, enfin même si c'était un moment important évidemment, mais par rapport au travail aussi, par rapport à ce qui se dégageait. Mais la naissance d'un enfant, effectivement, oui, ça, c'est marrant, oui, c'est vrai. Ça change une femme, de toute façon, ça change une façon de vivre. Mais c'est vrai que, déjà, j'ai toujours voulu être mère. C'était important pour moi d'accomplir, en fait, d'être une artiste, mais aussi de ne pas sacrifier une chose à l'autre. Et la naissance de mon fils, l'observation d'un nouveau-né, en fait, d'un être petit comme ça, de voir la rage de vivre qu'ils ont, en fait, c'est aussi quelque chose qui m'a porté beaucoup, par exemple, dans la pièce Babel. Babel, Babel, où il y a beaucoup de travail sur le corps nu et le chant des enfants morts de Kathleen Ferrier, enfin de Malheur. Donc le choix de cette musique-là, enfin je pense que c'était vraiment lié à la découverte de... C'est la première fois que j'étais mère, quoi. Donc on est sensible aussi au corps d'un nouveau-né, cette espèce de chose très forte de persévérance dans son être, quoi, d'un nouveau-né. Et peut-être pour Louise, la pièce qui a suivi directement, c'est Cortex. Et Cortex, c'est aussi l'apprentissage du langage, en fait, de la façon de décrire le monde. Et quand on voit la capacité d'imitation aussi des enfants, des petits, comment le langage est appris, en fait, ils répètent comme des perroquets les paroles des grandes personnes. Ben, j'ai l'impression que ça a joué aussi, en fait, dans cette pièce-là en particulier. Puisque Cortex, c'est là qu'on a commencé à parler. Enfin,
Cortex, oui, vous commencez là à parler de plus en plus. Hein, c'est le début de la mise en mots.
On commence à décrire le monde, en fait. Donc ça joue, oui. Tout ce qu'on vit vient interférer dans le travail qu'on fait, dans le travail artistique. Ça s'inscrit dedans, quoi. Ouais.
Merci, Maggie Marin.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Nejma Bouakra avec Maggie Marin. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son Jordan Robert, réalisation Laurent Polleret, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.